Héloïse, aujourd'hui, à la Une de la Science, on parle d'une étude qui remet en question les certitudes des scientifiques sur les origines et les tout débuts de la vie sur Terre.
Oui Mathieu, alors qu'on pensait encore il y a peu qu'aucune forme de vie plus sophistiquée que la bactérie n'avait émergé avant moins 580 millions d'années, une étude qui vient de paraître dans la revue PNAS vient complètement chambouler cette conviction. Non seulement il y a 2 milliards d'années, il y avait déjà des êtres vivants constitués de plusieurs cellules, mais en plus, visiblement, certaines étaient assez évoluées pour se déplacer. On en parle tout de suite avec le principal auteur de l'étude, Abderrazak El Albani, qui est en duplex depuis Poitiers avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université de Poitiers, paléo-biogéochimiste et spécialiste des roches sédimentaires. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que déjà à cette époque, il y a 2 milliards d'années, même plus, il y avait déjà des êtres vivants capables de se déplacer?
Disons que l'histoire de la vie sur Terre, très clairement, est dépendante de son environnement. Donc en fait, si on prend cette période de 2 milliards 100 millions d'années et on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant et après, on se rend compte que vers 2 milliards 5, on a eu une grosse glaciation, donc Terre boule de neige. Et quand on va sortir de cette glaciation, beaucoup d'oxygène va être libéré dans l'atmosphère et ça va commencer vers 2 milliards 3 à prendre de l'ampleur. Et à 2 milliards, 2 milliards 100, on est vraiment sur un palier. Et donc le système, le milieu, le biotope va réagir et réagit favorablement parce que les cyanobactéries qui vont se développer en masse parce qu'ils vont voir arriver cet élément nouveau plus les éléments nutritifs vont nous aider à améliorer, à augmenter cette concentration d'oxygène et donc on pourrait par la suite espérer avoir des collaborations entre les cellules. Attention, le même scénario se reproduit plus tard, un milliard d'années plus tard. Donc glaciation, montée d'oxygène et on voit apparaître la faune d'Ediacara. Donc voilà, donc l'histoire du vivant très dépendant du milieu.
Et en pratique, donc vous êtes géologue, qu'est-ce que vous avez vu dans la roche aussi qui prouve l'existence de ces êtres vivants mobiles?
Alors c'est vrai que dans la roche, comme on l'a montré déjà en 2010-2014, on a des formes de vie diverses et variées, hein, mais en même temps on a des formes qui étaient vraiment intrigantes. Pour certaines, elles étaient visibles, pour d'autres, il a fallu utiliser de la microtomographie, donc c'est un scan 3D. Et à notre grande surprise, on a pu identifier, mettre en évidence un certain nombre de formes tubulaires, hein, d'espèces de petits tunnels hein, qui traversent la roche et qui recoupent les lamines, parfois horizontales, parfois verticales, obliques, sinueuses. Et ça nous a un petit peu interpellés. Si on regarde ça au-delà de l'âge, on ne se posera pas de questions, ce sont des traces de mouvement. Maintenant, on est à 2 milliards 100. Il a fallu vraiment utiliser des approches diverses et variées.
Et ça veut dire, Abderrazak El Albani, qu'à cette époque-là, on pensait que les organismes vivants étaient figés alors ?
Oui, exactement. Déjà, il a fallu d'abord se battre pour montrer qu'il y a une autre version que la version officielle, à savoir que la vie pourrait émerger quand les conditions sont réunies. Maintenant, aller jusqu'au mouvement, quand je discute avec mes amis biologistes et généticiens, ça veut dire que les organismes doivent atteindre un stade de sophistication. Je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, il faudrait une innovation biologique pour que l'organisme, pour coordonner ses propres efforts et bouger à travers le sédiment. Oui, on peut avoir du mouvement parce que derrière nous, il y a au moins 200 millions d'années d'augmentation d'oxygène dans l'atmosphère. Donc les cellules, ils ont eu le temps de se perfectionner, de coopérer, de former des organismes multicellulaires et pourquoi pas bouger. Et donc les traces de mouvement sont très claires et très évidentes au sein de la roche.
Et dans quel genre d'environnement évoluaient ces êtres multicellulaires? Faut imaginer leurs conditions de vie comment?
Alors, ils ont besoin d'un environnement qui n'est pas très profond, dans un environnement qui est photique, il y a de la lumière, de l'oxygène, donc tout ça, on a pu le démontrer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont très proches des voiles bactériens. Alors, ça, c'est pour nous un indice très, très intéressant, dans le sens où ça leur permet, dans certains cas de figure, quand il s'agit de cyanobactéries, d'avoir un peu d'oxygène, voilà, parce qu'on a un peu de photosynthèse, et puis ils se développent à l'interface, presque à l'interface au sédiment. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est ce qu'on voit tout à fait naturellement dans des formations beaucoup plus récentes. Donc en fait, si on regarde les ressemblances au-delà de l'âge, on ne se pose pas de questions. Maintenant, dès qu'on est à 2 milliards 100, beaucoup de questions se posent et c'est à nous de montrer avec, entre guillemets, l'artillerie lourde analytique et les compétences. Hein. Grâce à ce travail d'équipe, je le précise, on a pu démontrer effectivement que ce sont des traces de mouvement.
Mais est-ce qu'il y a de l'eau liquide dans cet environnement, justement, Abderrazak El Albani ?
Absolument, parce que ça se fait alors que le sédiment est encore meuble. On est vraiment à la proximité entre l'interface et l'eau de mer. On est vraiment dans une eau marine, pas très loin du littoral. On est peut-être à 20, 30, 40 mètres de profondeur. Et le sédiment est encore meuble. Autrement, ils peuvent pas bouger. Et l'une des questions majeures qui nous a été posée, c'est prouver la biogénicité, c'est-à-dire prouver que c'est du bio. Alors pour cela, il a fallu utiliser tout un tas de techniques diverses et variées, géochimiques, minéralogiques, etc., tomographiques. Et donc, en fait, ça se déplace dans un sédiment meuble. Puisque comme on est à la proximité de l'interface avec l'eau de mer, il se développe là, comme c'est le cas aujourd'hui ou hier dans le Phanérozoïque.
Et dans quel but ces petits animaux, si on peut parler même d'animaux, vous allez nous le dire, mais pourquoi ils se déplaçaient? Ils avaient besoin de se déplacer?
Alors, ils ont besoin de se déplacer pour deux raisons. La première est d'ordre, je dirais, nutritif. Ils ont besoin, ils cherchent, on voit très bien leur proximité avec les voiles bactériens, et ils cherchent leur nourriture, mais en même temps, ils cherchent de l'oxygène. Comme ils sont à l'intérieur d'un sédiment un petit peu riche en matière organique, il manque un peu d'oxygène. On est dans la colonne d'eau, il y a de l'oxygène, mais pas dans le sédiment, il y en a beaucoup moins. Et donc, cette proximité des voiles bactériens leur apporte de l'oxygène. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très, très éloignés de l'interface avec entre l'eau et le sédiment. Donc ils se déplacent pour se nourrir et pour aussi avoir un peu d'oxygène, pour avoir de l'énergie pour qu'ils puissent ces organismes pour qu'ils puissent bouger. Alors maintenant, attention, il y a un point crucial concernant la nature des cellules, et ça c'est quelque chose qui a été également démontré très clairement. Pour nous, ce sont des cellules eucaryotes qui composent ces organismes. Autrement, on ne pourrait pas avoir ce stade de sophistication, pardon le terme que j'invente là, mais être aussi sophistiqué pour bouger, il faut qu'il y ait un minimum de, pour moi, d'organisation.
On ne parle pas d'animal, hein, Abderrazak El Albani, on parle de cellules.
Voilà, le terme animal, je ne l'ai pas utilisé, non. L'organisme en lui-même existe. C'est-à-dire, on a des traces d'emplacement d'organismes. Alors, ça peut être... Une des hypothèses sont des colonies d'amibes qui peuvent s'organiser ensemble, se coordonner pour faire un seul unique organisme, et dans un objectif de survie, oxygène, encore une fois de plus, nourriture, mais sur d'autres là où ils sont pas capables de bouger, enfin, quand on est en vertical oblique, les colonies d'amibes ne sont pas capables de faire ça. Voilà.
En tout cas, ces êtres primitifs, on peut penser que c'est nos ancêtres à tous et à tous les êtres vivants qu'on trouve maintenant sur Terre?
Moi, je pense qu'à partir d'un certain moment, il faudrait qu'on passe à une organisation assez claire entre l'uni et le pluricellulaire. Ça, c'est un point crucial, c'est un point clé dans l'histoire du vivant. À partir du moment où on quitte le monde unicellulaire pour aller vers le pluricellulaire, on commence déjà à préparer les prémices de ce qu'on pourrait appeler les protozoaires ou les ancêtres des métazoaires. Donc, à un moment ou à un autre, l'organisation pluricellulaire doit se mettre en place. Et c'est pour ça que vers 2 milliards 100, quand l'oxygène va être en abondance et les éléments nutritifs en abondance, il va y avoir forcément, systématiquement, une réponse du biota et du biotope à ces changements d'environnement qui prennent quand même, ça je le rappelle, 200 millions d'années quand même. Voilà.
Merci beaucoup pour ces précisions, en tout cas Abderrazak El Albani, donc sur les prémices de la vie. Merci beaucoup à vous, et merci aux équipes de Poitiers pour ce duplex. On se retrouve demain, Héloïse.
À demain, Mathieu.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, les insectes qui connaissent un déclin mondial sans précédent, environ un tiers des espèces menacées d'extinction. Et chaque année, c'est 1% des espèces qui s'ajoutent à la liste, ce qui équivaut au plus massif épisode d'extinction depuis la disparition des dinosaures. Ces chiffres alarmants ont été calculés par des scientifiques australiens à partir de la synthèse de 73 études. Les auteurs tiennent l'agriculture intensive pour responsable de la situation. Leur conclusion est claire, si nous ne changeons pas la façon dont nous produisons nos aliments, il faut s'attendre à voir les insectes prendre le chemin de l'extinction en quelques décennies. En plus de mettre les adolescents en danger immédiat, la pratique du binge drinking a des effets directs sur le développement de leur cerveau et donc des conséquences à long terme sur leur santé. C'est une étude parue dans la revue Translational Psychiatry qui suggère que certains des dommages cérébraux seraient dus à la modification de gènes et à la façon dont ils s'expriment. Une protéine importante dans la formation et le maintien des connexions dans l'amygdale, une partie du cerveau impliquée dans les émotions, pourrait être altérée. Les jeunes auraient alors un risque augmenté d'être en proie à l'impulsivité ou sensible à l'anxiété, à la dépression. Et puis le printemps qui approche est une question qui taraude les Japonais et les touristes au pays du soleil levant. Quand donc vont éclore les fameuses fleurs de cerisier, un des emblèmes du pays? La chose est prise très au sérieux. Des prévisionnistes météo s'appuient comme chaque année sur des relevés de température pour tenter de prédire quand la floraison aura lieu. Et pour encore plus d'exactitude, les scientifiques peuvent aussi compter sur des milliers d'internautes qui leur envoient des photos de bourgeons. Le projet s'appelle Sakura Project, ce qui signifie cerisier en japonais. Et il a été lancé il y a 15 ans.